Pauline Pucciano, La cité hantée, partie 2, signes. Chapitre 1, jour de marché. Le commerce en haute ville avait toujours été par tradition discret, comme d'ailleurs tout ce qui entourait les transactions financières. La guilde du commerce avait toujours été tacitement méprisée par les autres guildes. Les oboles avaient cours, mais de manière presque invisible, honteuse, et leur afflux bruyant avait constitué l'un des changements majeurs de la nouvelle albâtre. La ville basse, en montant, avait charroyé les enseignes colorées qui battaient au front des palais, les crieurs publics et les étals tentateurs, et, malgré la réticence d'une noblesse peu disposée à acheter et à vendre au grand jour, la fièvre du commerce s'était propagée à la vitesse d'une épidémie. Aujourd'hui, la haute ville sonnait et tintait de l'aube au crépuscule, emplissant les poches des plus hardis, vidant celles des plus crédules, dans un tapage incessant. Irène passait beaucoup de temps à observer la ville, la bouche close et l'esprit aux aguets, les yeux grands ouverts sur les coutumes bizarres dont elle était témoin. Son cœur frémissait souvent de colère et d'indignation devant une telle dérision de société humaine. Pour elle, albâtre était une communauté de pacotille que ne scellait aucun ciment spirituel, que n'animait aucun principe. Elle détestait la futilité des gens comme l'arrogance des palais et regrettait bien souvent l'immobilité profonde de la montagne et le murmure vert des forêts. Pour l'heure, elle traversait une sorte de foire. Le bruit des voix humaines était assourdissant. Chacun menait sa conversation, qui en langue vulgaire, qui en langue noble, et il ressortait de cette cacophonie une atmosphère d'excitation indescriptible. Ensuite, il y avait cette anarchie de mouvement. Les marchands, immobiles, mais dont les voix portaient plus, et les chalands, badaudant sans but précis, traînant leur indécision et leur sourire incertain. Enfin, il y avait les choses, qui semblaient ici dans leur temple, les choses regardées, caressées, achetées, les choses reposant sur des soies chatoyantes, enveloppées d'or et d'argent, offertes au culte de la foule comme d'étranges idoles muettes. À quoi ces gens passaient-ils leur temps de conscience, si précieux et si court, plus furtif qu'un souffle de vent? Ils le passaient à déployer d'incroyables efforts pour amasser des disques de métal. Il le passait à s'enivrer de vins et d'objets capiteux qui endormaient leur sens et caressaient leur orgueil. Il le passait à échanger des paroles inutiles, vides de sens, perdues au vent de la foule. Ne leur avait-on pas enseigné le poids de la parole? Ignorait-il que chaque mot devait être mesuré, que chaque mot était lourd de son sens et tombait dans le monde avec des conséquences infinies? Quel était le but de toute cette agitation? À quelques mètres d'Irène, un bateleur avait réuni autour de lui 2 douzaines de personnes. Son costume étrange était coupé en deux, par le milieu. La partie droite était une toge de cérémonie de couleur pourpre et correspondait à la partie droite de sa coiffure, faite de tresses traditionnelles, tandis que la partie gauche était un patchwork de lainage grossier et de toile brune, avec un drôle de pantalon à une seule jambe et un demi-chapeau sur la partie gauche de la tête. Sur l'épaule droite, l'homme tenait un gros lézard, sur l'épaule gauche, un chafouin. Son numéro faisait rire aux éclats les natifs de Villebasse et sourire complaisamment les natifs de Hauteville. Le lézard reposait en effet sur une bourse emplie d'oboles que le chafouin dressé convoitait sans relâche. Le petit animal agile n'avait de cesse de voler des pièces et de les placer une à une dans la poche gauche de l'homme, qui enflait de manière comique au fur et à mesure du tour. Le chafouin escaladait la tête de l'homme, lui marchait sur le nez, sautait à terre et bondissait d'un seul coup jusqu'à son butin. Il faisait des cabrioles, tirait les cheveux des enfants et fit même quelques gestes obscènes à l'endroit d'une noble vieille. À la fin du tour, le chafouin parvenait à dérober le sac vide au lézard impassible et, saluant en même temps que son maître, faisait passer le sac au badaud afin qu'il le remplisse. Irène, le visage grave, observa les badauds. Ils avaient l'air insouciants et heureux, comme des enfants à peine sortis de l'âge du lait. Ils riaient de bon cœur à ces enfantillages. Combien de temps le bateleur avait-il passé à dresser cet étrange animal? Quelle sorte d'œuvre était-ce là? Ce peuple était-il un peuple enfant? Irène, effarée, était abîmée dans ses réflexions, lorsque son esprit, toujours plus ou moins actif, perçut une anomalie spirituelle. Les citoyens d'Albâtre étaient là, et leur aura humaine et chaleureuse enveloppait toute la place du marché. Mais depuis quelques instants, il y avait autre chose. Irène ferma les yeux et se concentra. C'était un peu plus et un peu moins qu'une conscience. Cela passait, comme un oiseau de proie dardant son œil perçant au milieu des forêts giboyeuses. Irène n'avait jamais rien perçu de tel, et une peur sourde et instinctive s'empara d'elle. Elle n'avait jamais entendu parler de quoi que ce soit d'aussi terrifiant. Un étrange esprit sans corps, plus vaste et moins ramassé qu'un esprit humain, mais infiniment puissant et menaçant. « Mademoiselle, vous vous sentez bien ?» Elle ouvrit les yeux subitement, prise d'un grand froid intérieur, et vit à quelques centimètres de son visage celui du bateleur qui lui souriait à travers le phare. « Vous paraissiez songeuse pendant mon numéro, et vous avez tout à coup fermé les yeux, j'ai cru que vous vous sentiez mal. » Irène le dévisagea. Ces gens n'étaient pas méchants, au fond. Ils étaient juste insouciants et cruels, comme des enfants. Elle s'efforça de sourire. « Je vous remercie, je vais bien. » Le bateleur, rassuré, siffla pour rappeler son chafouin, à qui il donna un beignet de fleurs. Puis il disparut dans la foule, et Irène s'éloigna vivement de la place du marché. Dans la rumeur joyeuse qui s'affaiblissait, elle songeait. Était-elle la seule qui perçut le danger au-dessus de leur tête folle? Était-elle la conscience de cette ville qui dansait en riant au bord du précipice?